Kiosque Magazine.
Bon matin tout le monde, ici Louise Mercier. Vous écoutez Canal M, la radio de Vues et Voix. Ce matin, on a une invitée spéciale qui remplace Christine. Alors, bienvenue, Danielle.
Ah, ben, bonjour.
Bienvenue, Danielle.
Bonjour, Anne-Marie.
Et Anne-Marie, donc, en ma compagnie. Ce matin, on a des sujets assez différents. Donc, on a décidé de faire ça un petit peu mélangé, faire un beau melting pot. Donc,
avant les vacances.
Ça c'est ça. Donc, Danielle, tu vas parler de quoi?
Ben, aujourd'hui, je vais vous parler de grands-parents avec des petits-enfants dont les parents se sont séparés. Je vais vous parler d'un livre qui traite comment parler de cancer à des enfants et des lignes esthétiques. Je vous réserve la surprise. Les lignes esthétiques.
Oui. Et toi, Anne-Marie?
Moi, dont, étant donné qu'on s'en va en vacances, dans les grandes vacances de juillet, 10 choses dont on n'a jamais assez en vacances. Et mon premier sujet, la face cachée de l'anxiété, un sujet qui est bien tabou encore, même en 2015.
Ça m'intrigue.
C'est un témoignage.
Alors, moi, je vais parler de la profession de l'esthéticienne. J'ai une excellente esthéticienne et je voulais lui faire honneur. Je vais parler de Bloody Mary, de mode et d'un gentleman.
Alors, comment aider vos petits-enfants quand les parents divorcent? C'est un article de Jacqueline Simoneau paru dans Le Bel Âge de novembre 2014. Et malgré que ce soit en 2014, c'est quand même un sujet d'actualité. Alors, Laurence a 10 ans et Félix 7 ans. Ils ont récemment quitté la maison de leur enfance. Désormais, ils vivront en garde partagée une semaine chez papa et une autre chez maman. Au Québec, un couple marié sur deux finit par divorcer. C'est dire que beaucoup d'enfants sont touchés par ces unions brisées. Mais peu importe la fréquence des rencontres, les grands-parents peuvent jouer un rôle déterminant auprès des petits-enfants qui vivent souvent un sentiment de tristesse, d'anxiété, voire de culpabilité lors de la rupture des parents. Maintenir le contact avec les grands-parents leur est bénéfique, d'autant plus s'ils se fréquentaient souvent avant le divorce des parents. Ce lien constitue un élément de stabilité dans leur vie chambardée. Alors, sans compter que la maison des grands-parents peut devenir un refuge apaisant certains jours. Des gestes bienfaisants. Dans la tourmente, vous pouvez être tenté, comme grand-parent, de prendre parti en faveur de l'un ou l'autre des parents. Présentez des demandes claires et concrètes concernant les visites de ces derniers des petits-enfants, tout en vous abstenant de faire des reproches ou des commentaires désobligeants, même si un nouveau compagnon ou une nouvelle compagne se pointe à l'horizon. Pour bien des enfants, il vaut nettement mieux faire preuve d'ouverture et de tolérance. Il y a 12 conseils. Alors, le premier, soyez disponible. Si vous en avez le temps et l'énergie, offrez votre aide aux parents pour conduire et aller chercher les petits à l'école, aider aux devoirs ou encore les garder de temps à autre. Mais surtout, ne vous imposez pas. Respectez également vos limites physiques, psychologiques et émotionnelles. Apprenez aussi à dire non aux besoins. Aussi, ne transmettez pas votre colère. À l'instar de vos petits-enfants et de votre enfant, vous devrez aussi faire le deuil de la famille, oui, idéale, normale. Mais quel que soit votre chagrin, il est important de ne pas partager votre colère, votre déception et vos jugements avec vos petits-enfants. Cela risque de les perturber inutilement. Si vous avez du mal à gérer vos émotions, trouvez un proche, un ami ou, mieux encore, un professionnel. Troisièmement, ne dites jamais du mal des parents. Les enfants aiment leurs parents inconditionnellement, peu importe qui a tort ou qui a raison. Surtout, ne les incitez pas à choisir entre deux camps. Ils se sentiraient forcément déloyaux envers un des parents et se culpabiliseraient. Le divorce des parents est déjà assez angoissant pour eux, sans qu'ils doivent en plus prendre parti. En plus, il ne faut pas lancer la discussion au sujet du divorce. N'abordez pas la séparation avec les petits, les tout-petits, avant qu'ils ne soient prêts à le faire. Ne forcez pas les choses et ne les bombardez pas de questions. Ne les mettez pas non plus dans une situation où ils se sentent coincés et tenus de répondre. Rappelez-leur simplement que vous êtes là pour les écouter s'ils ont envie de parler. Attendez une ouverture de leur part avant d'aller plus loin. Vous pouvez aussi les encourager à parler ouvertement de leurs émotions. S'ils s'ouvrent à vous, accordez-leur une écoute attentive sans les interrompre ni les juger. Permettez-leur de verbaliser leur colère, leur tristesse et leurs inquiétudes pour tenter de comprendre ce qu'ils vivent. Avec les ados, par contre, vous pouvez vous montrer plus ouvert lors des discussions et poser des questions sur leurs sentiments face au divorce, mais sans insister toutefois. Rappelez-vous aussi qu'il est normal, à l'âge des ados, qu'ils se détachent un peu de la famille pour se rapprocher des amis, et plus encore lorsqu'il y a divorce des parents. Les ados ont souvent tendance à se renfermer sur eux-mêmes le temps que la tempête passe. Ne donnez pas d'explications compliquées. Répondez aux questions des petits le plus honnêtement possible avec des mots simples, en tenant compte de leur âge, sans toutefois élaborer. Ils n'ont pas à connaître en détail les dessous de la séparation. Si vous êtes vous-même divorcé, ils voudront peut-être avoir une idée de votre propre histoire. Vous savez, la vie continue et elle peut être heureuse même après la fin de la relation amoureuse des parents. Montrez-leur que le monde ne s'écroule pas. Rassurez-les. Si personne ne répond à leurs interrogations, les enfants croiront qu'on leur cache quelque chose ou pire encore, qu'ils sont les grands responsables de la rupture. Les jeunes enfants en particulier s'imaginent souvent en être la cause. Un conseil. Entendez-vous avec les parents pour tenir le même discours concernant les motifs de la séparation. Rassurez les enfants, c'est bien important, en leur rappelant que l'amour du couple peut parfois disparaître, mais pas l'amour parental. Ne répétez pas systématiquement aux parents ce que les enfants vous ont dit. Respectez leur confiance en vous. Par contre, si l'un de vos petits-enfants tient des propos du genre « je n'ai plus le goût de vivre » ou « je vais m'en aller loin », informez-en rapidement les parents. Dans les autres cas, vous pouvez en parler au père et à la mère. N'en faites pas des petits espions. Ne leur demandez jamais de rapporter ce qui se passe chez l'un ou chez l'autre des parents, même si vous êtes tenté. Par contre, rien ne vous empêche de vous montrer intéressé par ce qu'ils vivent. Vous pouvez aussi utiliser des livres et le dessin pour amorcer le dialogue en vous procurant des livres jeunesse qui traitent justement de la séparation. Finalement, maintenez la communication après un divorce en raison de l'éloignement causé par un déménagement ou de visites moins fréquentes. Vous avez l'impression de perdre le contact avec vos petits-enfants, particulièrement les ados. Ben, échangez avec eux par courriel et SMS, mais sans être envahissant. Vous pouvez les suivre sur Facebook. Sinon, téléphonez-leur de temps en temps sur leur cellulaire.
Alors, on passe des enfants... victime de séparation des parents, à l'esthéticienne. Il n'y a pas beaucoup de liens, mais bon. C'est un sujet féminin. Annabelle Nicou, dans le 10 juin dernier, dans la presse, nous parlait la profession esthéticienne. Les soins des unes, le corps des autres, elles ont un métier qui ne connaît pas la crise, connaissent l'intimité des femmes et leurs artifices et sont parfois méprisées. Les esthéticiennes exercent une profession fascinante. Au cœur d'une enquête sociologique d'Ivan Jablonka, Le corps des autres. Habitué aux sujets sérieux, les orphelins dans l'histoire, les enfants de la Shoah, l'historien français pose un regard curieux et sans préjugés sur une profession qui est pourtant assez stigmatisée ou, au moins, méprisée. Or, la célébration du corps est à la fois une pratique et une idéologie, écrit-il. Des entretiens qu'il a menés avec des esthéticiennes de tous âges, exerçant en ville ou à la campagne, dans des quartiers huppés ou populaires, ressort déjà une certitude. La part psychologique du métier d'esthéticienne, qui nettoie et embellit le corps, mais prend aussi soin de l'âme. Bien sûr, l'Institut de beauté est un gynécée, mais ce mot ne doit être pris ni dans un sens dépréciatif, ni dans un sens érotique. Ce qu'on y trouve, c'est moins des nanas à poil qu'une confiance à la fois physique et psychologique, une certaine qualité de la relation humaine, constate l'auteur. Pas un sujet n'échappe au large spectre couvert dans l'intimité d'un salon de beauté. Mariage, divorce, enfants, travail, petits et grands maux de l'âme et bien sûr conseils féminins. Les esthéticiennes ne sont ni dermatologues, ni infirmières, ni assistantes sociales, ni coachs, ni psychanalystes, et pourtant, elles sont un peu tout cela à la fois. Parce qu'elle plonge dans l'intimité physique de ses clientes, l'esthéticienne a un œil qui voit tout. La phobie du poil, ça, mon esthéticienne l'a. Des clientes les plus jeunes qui sont aussi les plus susceptibles de demander une épilation intégrale de leur sexe. La pudeur des unes, l'impudeur des autres, et aussi la propreté, marqueur de respect. Selon l'auteur, la violence ressentie le plus fortement par les esthéticiennes vient non pas des retards, impolitesses ou commentaires plus ou moins heureux des clientes, mais bien de leur hygiène personnelle. Certaines femmes en manteau de fourrure, quand elles sont nues sur la table, elles peuvent dire merci à leur parfum, lance une des esthéticiennes citées dans Le corps des autres. Enfin, Yvan Jamblonka mentionne dans son enquête la précarité qui règne dans cette profession. En France, les esthéticiennes plafonnent à peine au-dessus du salaire minimum. Mais il souligne que les salons de soins des ongles sont aussi le point d'arrivée de femmes sans situation légale en France. On peut faire le parallèle avec la situation décrite dans l'enquête du New York Times « The Price of Nice Nails and Perfect Nails, Poisoned Workers ». Publié en mai dernier et qui dévoile une exploitation des jeunes femmes dans les salons américains. Instruments de la beauté ou de la tyrannie de la beauté, les esthéticiennes recensent aussi les angoisses de leurs clientes, reflet des injonctions d'une société encore machiste. La peur de vieillir, la hantise du gras, la traque du poil, etc. Dans l'intimité de la cabine, pourtant, l'esthéticienne ne répond pas aux impératifs de la société, constate l'auteur. Au contraire, la cliente apprivoise sa non-perfection. À travers ce portrait, l'historien et sociologue révèle que derrière l'esthétique, que l'on relègue souvent aux confins du superficiel, se cache aussi un humanisme. Une lecture simple, touchante, sur un métier qui n'a rien de superficiel.
Ce que t'es belle quand j'ai bu, je regrette de n'avoir pas fait d'autres abus. Tellement t'es belle quand je vois ce que t'es belle quand j'ai bu, je regrette de n'avoir pas fait d'autres abus. Tellement t'es belle quand je vois les gens qui s'occupaient de la santé publique ont crié au scandale quand je leur ai dit ça. Je les invitais donc à venir très vite participer à cette expérience avec moi. Une fois que nous eûmes effacé toute forme de modération, nous fûmes en émoi de constater qu'au lieu de ces vilaines formes étaient nées les courbures les plus belles qui soient. Mais les apothicaires ont repris tous en cœur ce qu'elle est belle quand t'as bu, ce que t'es belle quand on boit, ce que t'es belle quand j'ai bu, je regrette de n'avoir pas fait d'autres abus. Tellement t'es belle quand je bois. Et ce dont la morale était plutôt statique m'ont dit qu'on ne pouvait traiter l'autre comme ça. Je les invitais donc à venir sans réplique participer à cette expérience avec moi. Une fois envolés les préceptes énormes qui dictaient nos conduites, nous fûmes sans émoi de constater qu'au lieu de ce visage mort n'était née la figure la plus douce qui soit. Et les gens pleins d'éthique ont repris plein d'émoi ce qu'elle est belle quand t'as vu, ce que t'es belle quand on voit, ce que t'es belle quand j'ai bu, je regrette de n'avoir pas fait d'autres abus. Tellement t'es belle quand je vois. Et ceux qui s'occupaient du savoir esthétique, ceux qui se demandaient au fait le beau c'est quoi, m'ont dit que la beauté n'est jamais éthylique. Mais venez donc tenter l'expérience avec moi. Une fois envolée toute définition de ce qu'est la beauté, nous fûmes sans émoi de voir que tu avais plein de conversations, et même des plus enrichissantes qui soient. Et les intellectuels ont repris dans la joie ce qu'elle est belle quand t'as vu, ce que t'es belle quand on voit. Thank you. antiquaires et les gens pleins d'éthique et les intellectuels et les femmes activistes et puis même ton frère et le frère de ton cousin entonnèrent dans le cœur ce merveilleux refrain. Ce que t'es belle, quand j'ai bu, je regrette de n'avoir pas fait d'autres abus. Tellement t'es belle quand je vois ce que t'es belle, quand j'ai bu, je regrette de n'avoir pas fait d'autres abus. Tellement t'es belle quand je vois ce que t'es belle, quand j'ai bu, je regrette de n'avoir pas fait d'autres abus. Tellement t'es belle quand je vois ce que t'es belle, quand j'ai bu, je regrette de n'avoir pas fait d'autres abus. Tellement t'es belle quand je vois.
Alors, merci à Mathieu qui a trouvé une chanson qui fait le lien entre mes deux articles qui n'étaient pas évidents. « Ce que tu es belle quand tu as bu », donc d'Alexis HK, et donc qui fait le lien entre la profession esthéticienne et le Bloody Mary, dont je vais vous parler à l'instant. Alors, l'article s'intitule « Encore plus canadien », c'est Émilie Bilodeau de La Presse qui a publié ça le 11 juin dernier. Donc, Zach Silverman et Aaron Horowitz sont de ces hommes qui aiment sortir au restaurant, faire les courses au marché et cuisiner pour leur famille et leurs amis. En clair, ils aiment bien manger et se soucient des aliments qu'ils posent dans leur assiette. Lorsque ces deux amateurs de Bloody Caesar ont prêté attention aux ingrédients contenus dans le jus de tomate et de palourde qu'ils buvaient, ils ont eu un choc. Je lisais l'étiquette et j'ai réalisé que c'était tous des ingrédients que je n'avais pas envie de boire, raconte M. Silverman, un Britanno-Colombien. En entrevue, l'avocat devenu entrepreneur ne nomme jamais le plus grand fabricant de jus de tomate et de palourde. Lorsqu'il parle de Clamato, il mentionne toujours « the other guys » ou « les autres gars » en français. « Je n'aime pas dire de mauvaises choses au sujet des autres gars. Je préfère parler de ce que l'on fait avec Walter. On n'utilise pas de glutamate monozotique » GMS, on n'utilise pas de couleurs artificielles et on n'utilise pas de glucose-fructose, Zach Silverman. Ce qui fait en sorte que Walter est unique, c'est l'absence d'ingrédients artificiels, souligne M. Silverman. Le duo utilise d'abord des tomates bien mûres qui apportent au jus une texture un peu plus dense que celle du jus de la marque concurrente. Il ajoute de la sauce piquante, de la sauce Worcestershire, très difficile à dire.
Je l'attendais.
Ouais. Un peu de rein fort, un soupçon de jus de citron et quelques épices. Surtout, il emploie du jus de palourde certifié Oceanwise et pêché dans le nord de l'Atlantique au lieu d'un bouillon en poudre. À cela, il ne reste qu'à ajouter une dose de vodka, de tequila ou d'un autre alcool. Les seuls secrets que nous avons, c'est la sorte de sauce piquante et de sauce Worcestershire que nous utilisons et le choix de nos épices. Sinon, les ingrédients sont vraiment simples, communs, et on peut les lire sur la bouteille, dit M. Silverman. Flairer une occasion. En analysant le marché, Zach et Aaron ont vu une occasion. D'abord, il existe peu d'options quand vient le temps d'acheter du jus de tomate et de palourde. En plus, la marque la plus populaire est fabriquée aux États-Unis et pourtant les Américains sont très peu nombreux à boire ou même à connaître le Bloody Caesar, alors que c'est tout le contraire au Canada. Au Canada, il y a beaucoup de gens qui boivent le produit des autres gars depuis longtemps et ils ne changeront pas leurs habitudes. Mais nous croyons au libre choix et nous pensons qu'il y a assez de personnes comme nous qui s'intéressent à ce qu'ils consomment. Leur flair ne semble pas les tromper. En avril dernier, Walter a reçu un prix Innovation du Salon international de l'alimentation Canada qui avait lieu à Toronto. Depuis le lancement du mélange à Caesar en novembre 2013, 350 restaurants au pays ont aussi adopté Walter et le servent à leurs clients. Le rêve de Zach et Aaron n'est pas de surpasser la marque Clamato, mais les deux hommes souhaitent tout de même ardemment voir Walter devenir une marque nationale d'un océan à l'autre.
De retour à Kiosque Magazine, Anne-Marie au microphone. La face cachée de l'anxiété. Des propos qui ont été recueillis par José Larrivé. C'est comment pour vrai souffrir d'anxiété? Nadine, 40 ans, femme extravertie, dynamique, cadre dans une firme de services aux entreprises, nous raconte. Ma première crise de panique a eu lieu au beau milieu de 100 000 personnes. Je n'avais pas 18 ans. J'étais sortie avec mon premier chum. Nous étions au festival de jazz. Il était tôt. Nous marchions vers la scène. Soudain, je me suis retournée, j'ai vu la foule et une terreur inexplicable m'a envahie. À ce moment précis, j'ai cru mourir. J'ai eu exactement la même sensation que j'aurais eue si quelqu'un avait pointé un fusil sur mon visage. J'ai vraiment senti mon cœur cesser de battre. J'étais paniquée. Je ne comprenais pas ce qui se passait. J'ai insisté pour qu'on quitte les lieux. Dur à comprendre pour le gars qui marche à tes côtés, qui n'a rien vu, rien senti, qui a hâte de voir le spectacle et qui se voit annoncer qu'il faut partir, sans raison à ses yeux. C'est d'ailleurs un des grands malheurs des gens aux prises avec l'anxiété. Rien ne paraît. Dans la vie, je suis une fille ultra dynamique. J'ai une personnalité assez extravertie. Je sais faire rire les autres. Je donne l'image d'une femme qui a pleinement confiance en ses moyens. Le gros problème, c'est ce qui nous mine est complètement invisible et impalpable pour le commun des mortels. C'est comme si on voyait un fantôme que les autres ne voient pas. Après cette première crise, j'ai découvert, comme une épée de Damoclès, la peur d'avoir peur. J'avais peur de revivre ce sentiment de mourir. Ça me prenait aux tripes sans avertissement et toujours avec des éléments imaginés. Doucement, ma vie allait devenir un petit enfer intérieur que je tentais de cacher à mon entourage. Par exemple, le premier matin où je me suis rendue dans les bureaux de l'entreprise au sein dans lequel j'avais décroché un emploi à la fin de mon bac, je me suis levée à 4h30 et j'ai quitté la maison à 6h pour ne pas me retrouver dans un bouchon de circulation. Une situation intenable pour moi. J'ai eu la chance de trouver un tout petit stationnement où il y avait de la place. Une chose rare au centre-ville de Montréal. J'étais soulagée, même si j'ai dû attendre 2 heures avant de faire mon entrée au bureau. Le soir, quand je suis revenue prendre ma voiture, le gardien m'a remis les clés en m'invitant à aller chercher ma voiture dans le garage souterrain. Je ne pouvais pas descendre là, mais il refusait d'aller la chercher pour moi. J'ai paniqué. J'avais si honte que pour m'attirer son empathie, je lui ai raconté que ma sœur avait été attaquée dans un garage souterrain. C'était un pur mensonge pour expliquer ma peur. Cette anecdote est juste une illustration du quotidien quand on vit avec des crises d'anxiété. Le moindre déplacement en voiture, pont à traverser, bouchon de circulation, foule dans les transports en commun, rend la vie impossible. Il y a tant de choses incontournables. Comment expliquer aux quelques personnes qui vous regardent dans l'ascenseur que non, vous ne montrez pas finalement? Ces crises d'anxiété ont aussi une répercussion sur mes amours. Combien d'invitations ai-je refusées alors que les gars m'intéressaient? La seule idée de devoir faire la file pour entrer dans un spectacle me pousse à m'agripper au bras du gars. Gênant pour une première sortie. Même chose pour le resto. Comment expliquer sa peur du plus inoffensif, petit resto romantique? Aussitôt qu'il y a 4-5 tables autour de la mienne, la panique s'empare de moi. J'imagine que je reste clouée au sol alors que tout s'écroule. Là encore, impossible de rationaliser. Bizarrement, c'est en pleine crise de panique que j'ai rencontré mon amoureux. J'avais 30 ans. J'étais allée au magasin en grande surface, en dehors des heures d'affaires, et sans que je m'en rende compte, la panique a commencé à s'installer. Je ne voyais plus les issues de secours. J'étais perdue, figée sur place au rayon des bijoux. Je me suis mise à halter. Le client à mes côtés m'a demandé « qu'est-ce que je peux faire ?» Il m'a rassurée, parlé doucement et en prime, je n'ai eu rien à lui expliquer de ce que je vivais, car il a su dès le début. Et c'est ainsi que tout a commencé. Phobie Zéro m'a été d'une grande aide. C'est avec les gens de cet organisme que j'ai pu mettre un nom sur la cause de mon anxiété, l'agoraphobie. Mon angoisse est liée à l'idée de ne pas pouvoir quitter les lieux assez rapidement s'il arrive quelque chose. Les endroits comme le Centre Bell, la foule, les files d'attente, les aéroports, les espaces fermés comme l'avion ou un bus me sont difficilement supportables. Je dis difficilement car la nécessité de leur faire face fait partie de la solution quand on décide de guérir. Il faut bien connaître les éléments phobogènes et il faut accepter de les affronter. Plus facile à dire qu'à faire. Je sais, mais ça vient tout de même avec quelqu'un qui a 20 ans d'expérience avec son agoraphobie. Et j'avoue que j'en ai longtemps eu honte. J'ai toujours été la fille performante et je me disais, comment ça se fait que la peur de quelque chose d'irréel, je sais que j'invente ce danger de mort, réussit quand même à prendre le contrôle de mon esprit? À cela, ma réponse était mot « faiblesse », que j'ai maintenant changé pour « force », la sphère dans laquelle je suis la plus épatée de mes performances. Les voyages, qui sont ma pire source d'anxiété, j'ai peur de vivre une angoisse incontrôlable. Une fois par année, je prends l'avion pour la combattre. Dans les groupes d'entraide, j'en ai entendu de toutes sortes. Des gens qui n'ont pas dépassé les frontières de leur balcon pendant plusieurs années, des gens qui n'ont pas pris le transport, ça a des conséquences également. Les membres de la famille et les amis qui observent que tu ne les fréquentes pas et qui croient que tu veux les ignorer. Les gens se fâchent ou boudent sans se rendre compte que tu es malade. C'est le lot des personnes vivant avec une maladie dite invisible. Mais l'anxiété n'est pas incurable. Mais pour l'entourage, un conseil, répétez que ça va passer, car quand tu es en crise, ça fait du bien.
Passons maintenant aux brèves, les petites nouvelles. Alors, hipsters, non, UCs. Alors, c'est des nouveaux mots qui sortent pour qualifier les nouvelles générations. Alors, ce sont des jeunes urbains nés dans le confort qui connaissent la valeur de l'éducation et qui ont appris à poursuivre leurs rêves, mais sans cracher sur l'argent, bien sûr. Ils font encore partie de la génération Y. Ils gagnent bien leur vie, mais de manière créative. Ce sont les Young Urban Creatives, les Yussies, ceux qui seraient en train de remplacer les hipsters. La mort du genre a été annoncée cette semaine par David Infante sur le site Mashable. L'auteur de 26 ans explique que le hipster est trop poussé vers son apparence, que le yuppie l'est trop vers l'argent, mais que le Yussie, lui, veut devenir riche vite tout en préservant son autonomie créative. Il a non seulement appris à poursuivre ses rêves, mais il veut aussi en profiter, indique-t-il dans son article.
Voilà ce qui conclut la première partie de ce kiosque magazine du 17 juin 2015. Nous allons aller en promotion. De retour après la pause. Écoutez Kiosque Magazine au microphone, Anne-Marie Mélina Simard. Alors, en complément de mon texte « La face cachée de l'anxiété » que vous pouvez retrouver dans le magazine Coup de pouce de juillet 2015, le trouble anxieux, c'est quoi au juste? C'est une peur ou une inquiétude excessive qui mène à éviter des situations normales du quotidien. Environ 70 % de la population fera face à l'occasion à un événement particulier qui lui permettra d'expérimenter le trouble de l'anxiété. Penser avoir perdu son portefeuille ou son passeport en voyage donne une idée de ce que vivent à répétition les personnes anxieuses. Les gens souffrant d'un trouble anxieux éprouvent de tels sentiments de manière répétée, mais sans raison réelle. Et même si les causes de leur peur sont imaginaires, l'angoisse est bien et bien ressentie physiquement. Ce trouble perturbe leurs relations, leur rendement au travail ou leurs activités sociales. Au pays, il touche environ 10 % de la population, quand même, hein? Les phobies spécifiques, araignées, avions, ponts, foules, ascenseurs, touchent deux fois plus de femmes que d'hommes, et les phobies d'anxiété sociale, prendre la parole devant un groupe, conversation, rencontre, 1,5 fois plus. Des facteurs génétiques, culturels et environnementaux peuvent être responsables. Il n'y a pas d'âge pour vivre sa première crise d'anxiété. En y repensant, je peux dire qu'un terrain propice à l'anxiété s'était installé bien avant ma première crise, raconte Nadine. Vers 15 ans déjà, je me sentais déprimée. Je ne mangeais plus, j'éprouvais un certain mal de vivre. Je me sentais pas bien physiquement et mentalement. Plusieurs membres de ma famille, de mon père, souffraient d'anxiété. La science reconnaît qu'une composante génétique peut jouer un rôle. Ce fut sans doute mon cas. Encore une fois, dans le magazine Coup de pouce de juillet 2015, comme on s'en va en vacances, nous les filles, alors 10 choses dont on n'a jamais assez en vacances, des propos qui sont de Claudine Saint-Germain. En 10 points, en premier point, du soleil. Au moins 99,9% de la population s'entend là-dessus. Le beau temps est très important pour des vacances réussies. Même les plus joviaux vont finir par grincer des dents après 10 jours de pluie, surtout quand l'hiver précédent a été long et pénible.
Hein? Et froid.
On voit les agences de voyage aussi.
S'éternisent aussi.
C'est ça. Les agences de voyage l'été, hein, qui ont de recrudescence de plus en plus, les gens qui partent en vacances. En deux, du repos. Le but premier des vacances, recharger ses batteries mentales ou physiques. L'objectif est d'atteindre cet état dans lequel le stress a complètement quitté chaque cellule de notre corps, pas toujours facile, mais évitable. C'est vrai, du repos. En trois, des romans. Passer des heures immobiles à suivre les aventures de personnages fictifs pour le simple plaisir de se faire raconter une histoire, n'est-ce pas une des meilleures façons qui soit de prendre du temps pour soi?
Et s'évader.
S'évader, voilà. En quatre, des occasions de bouger. Les sportives le font toute l'année, mais pour le sédentaire, l'été offre des occasions où bouger est plus facile et amusant. Partir en randonnée, faire du vélo en couple, nager dans la piscine, jouer au ballon avec les enfants. Pas de contraintes, pas d'habileté requise, juste le bonheur de s'activer. En cinq, des moments en famille. On est plusieurs à trouver qu'on manque de temps ensemble pendant l'année, où on est trop accaparé par les tâches du quotidien, alors que les horaires sont allégés et l'attitude de chacun plus relaxe. C'est le temps de resserrer les liens familiaux en s'amusant ensemble dès que l'occasion se présente. En 6, de la crème glacée. Eh oui, absolument non négociable, pouvoir déguster le quota désiré de petites molles au chocolat ou à la vanille trempée dans le chocolat est l'une des raisons pour lesquelles l'été a été inventé. En 7, barbecue. Oui, la mijoteuse est tellement pratique, mais le plus alléchant des mijotés ne créera jamais vacances, comme la simple brochette grillée qui a demandé 3 minutes de préparation. De mai à septembre, c'est sur le barbecue que ça se passe. En 8, des soirées à l'extérieur. Même si on rit du fait, on ne fait rien de spécial, le fait d'être dehors, la nuit tombée, fait que notre journée se termine avec une note relaxante. Surtout quand la fraîcheur nocturne succède à la canicule du jour. Même au milieu d'une semaine de travail, l'effet est là, à répéter le plus souvent possible. En 9, de la nature. Même les plus urbains ont besoin de verdure de temps en temps. Forêt, rivière, montagne, bord de mer. Plus on profite de la nature, plus on profite de l'été. Et finalement, en 10, du fun, du plaisir. De toutes les sortes, toute seule, en gang, avec notre amoureux, avec nos enfants, du fun gratuit, libérateur, songé ou totalement nono, du fun étalé sur tout un week-end et des petites bouffées arrivant tous les jours à l'improviste. Qu'importe notre budget et nos plans de vacances, au fond, tout revient à ça, avoir du plaisir pour que les souvenirs de l'été 2015 nous donnent le sourire aux lèvres plus longtemps possible et bonnes vacances!
Merci Anne-Marie. L'été aussi, c'est le temps de la mode, surtout pour le festival Mode et Design qui propose une nouvelle plateforme pour ses 15 ans. Olivia Lévy nous en parle dans la presse du 12 juin dernier. Le festival Mode et Design célèbre ses 15 ans cette année du 17 au 22 août à Montréal sur la place des festivals dans le quartier des spectacles. Parmi les nouveautés, le volet conférences prend de l'ampleur. Il est mené par le journaliste et réalisateur Stéphane Leduc, qui assume le rôle de commissaire. De nombreux invités de marque seront présents, dont la designer et styliste colorée de New York, Patricia Field, qui habillait Sarah Jessica Parker dans Sex and the City et Meryl Streep dans Le Diable s'habille en Prada. Le chapelier des plus grands couturiers, le Britannique Stephen Jones, le célèbre blogueur et photojournaliste Adam Katz, Sinding, spécialiste du style de rue, l'artiste peintre américain Scooter Laforge, l'historien de l'art Vincent Leray, auteur de livres sur Christian Dior et chargé du patrimoine chez Christian Dior Parfums, Jean-François Follhomme, directeur recherche et développement chez New Balance, à qui on doit la chaussure de course la plus légère au monde, et Peter Simons, président-directeur général de la maison Simons, seront aussi au rendez-vous. Au programme également, des défilés-spectacles de grandes marques et de créateurs à ciel ouvert et à l'intérieur. Des DJ présents tous les soirs lors des apéros Fashion Music. Une course en talons hauts. Je ne serais pas habile là-dedans. Des stations de maquillage en plein air. Des boutiques éphémères de designers d'ici et d'ailleurs. Depuis 15 ans, l'accessibilité a toujours été la priorité du festival. On a eu l'idée de mettre la mode dans la rue et de la démocratiser en faisant un vrai rassemblement extérieur. On est différent et c'est ce qui nous démarque des villes comme Toronto, Paris ou New York, lance Jean-François Davio et Chantal Durivage, co-président du festival. La mode doit vivre, doit être portée et être tournée vers les consommateurs, ce qui a toujours été notre vision initiale, poursuit Chantal Durivage. Il souhaite miser sur la force de Montréal, la créativité. Contrairement à Marc Cassivi de la semaine passée, on voit que eux associent la créativité à Montréal. Il y a une vraie reconnaissance internationale de Montréal comme ville créative et il faut en profiter. C'est là où on se démarque, c'est de travailler avec les forces vives. Pourquoi ne pas créer un défilé avec Robert Lepage, par exemple, lance Jean-François Davio. Il veut aussi mettre de l'avant le volet design, créer des aménagements spécifiques sur le lieu du festival et en faire un vrai laboratoire créatif design. On veut mettre en valeur le bois. On veut faire du bois au Québec ce que le vin est à Bordeaux, que ça devienne notre image de marque. D'ailleurs, notre passerelle sera faite en bois. Un concours est également organisé avec l'École de design de l'UQAM et le Conseil de l'industrie forestière du Québec. Les étudiants doivent créer un placotoir en bois, une aire de rencontre et de détente qu'on découvrira sur la place des festivals. Nouvelle plateforme web. Le Festival Mode et Design attire 500 000 personnes. Et pour garder ce public actif toute l'année, l'avenir du festival se conjugue sur le web avec le lancement ces jours-ci d'une nouvelle plateforme. On y diffusera des défilés de mode en direct ou en différé. On pourra s'informer et échanger des nouvelles sur la mode d'ici et d'ailleurs. Il sera aussi possible d'acheter des vêtements. D'ailleurs, on y propose déjà des idées de styles à porter pendant les nombreux festivals cet été. Chaque événement est associé à un style particulier en collaboration avec la marque Dynamite. Chaque mois, on espère mettre en vedette une marque ou un détaillant différent. Il faut assurer une présence annuelle et c'est pour ça qu'on lance notre plateforme sur le web, car les possibilités sont illimitées. La mode, c'est un médium culturel. On avait envie de la faire partager au plus grand nombre et ce, pendant les 12 mois de l'année. On fait un travail colossal qui dure le temps d'un spectacle défilé de 30 ou 40 minutes. C'est très éphémère. On a une belle communauté qui ne demande qu'à nous suivre toute l'année. S'amuser, s'informer, faire des achats et faire partie d'une communauté, c'est ça notre plateforme. Chantal Durivage et Jean-François Davio souhaitent amener le festival dans d'autres villes comme Vancouver, Lyon ou Barcelone. On veut faire vivre ce festival à travers le monde et partout dans l'industrie de la mode, on cherche désormais à rejoindre le grand public et à démocratiser la mode. C'est un mouvement mondial et pour nous, c'est très encourageant. Alors, mon dernier article pour aujourd'hui, c'est un article de Sylvia Galipeau qui a paru le 6 juin dernier dans la presse, « La complainte du gentleman déçu ». Je pense qu'on va voir que les femmes disent qu'elles veulent quelque chose, mais en réalité, elles veulent peut-être d'autres choses. C'est l'histoire d'un gentil jeune homme bien élevé, poli, courtois, à l'écoute, qui s'est vite rendu compte que les bons garçons n'attiraient pas, malheureusement, les jolies filles. Plusieurs peines d'amour plus tard, le voici sur scène avec un monologue à la fois naïf et comique sur le gentleman perdu. Qu'est-ce qu'un gentleman? Tous les hommes doivent-ils l'être? Tous les hommes peuvent-ils l'être? Et surtout, toutes les femmes méritent-elles un gentleman? Jean-François Plante-Tan, qui vient tout juste d'avoir 28 ans, a posé la question à près de 200 jeunes de sa génération. Depuis 2 ans, en fait, il réfléchit beaucoup à cette question, au point où il aurait pu en faire une thèse de doctorat. « Mais je ne voulais pas faire de doctorat », raconte le comédien, rencontré cette semaine. « Alors j'ai décidé de parler de moi. D'où vient mon gentleman à moi? Raconter ma vie amoureuse, mes bons et mauvais coups. Le texte, qui ne vous révélera certes pas de grandes nouveautés sur l'amour, a le mérite de donner la parole à un jeune homme comme on en entend plutôt peu. Loin du tombeur de ces dames, c'est l'anti-héros parfait. Gentil, à l'écoute, au secondaire, cégep, puis à l'université, il prend rapidement la voie de la « friend zone ». À son grand et énorme désespoir, raconte-t-il, avec une désarmante franchise. Les femmes préfèrent les Gino. On n'est pas surpris, là, je pense.
Non, non, pas du tout.
C'est
moi.
Mais pourquoi diable les bons gars ne pognent-ils pas? Ce délicat jeune homme, en quête de l'amour avec un grand A, va vite réaliser que même si les filles disent aimer les gentlemen, elles finissent souvent dans les bras des tombeurs et autres charmeurs. Oui, entre un gentil gentleman et un vulgaire douchebag, ce sont les deuxièmes qu'elles choisissent, inexorablement. Trouvez l'erreur. Je croyais qu'en étant un gentleman, je finirais par trouver l'amour. Je n'ai fini qu'à être qu'un pauvre gentleman perdu. Si les grandes questions sur l'art de trouver l'amour vous intéressent, Jean-François Plantane a du vécu à revendre et quelques pistes à proposer, notamment une métaphore autour du surf, de la mer et de la vague parfaite. Pour les éternels romantiques, cyniques, s'abstenir.
Solitaire dans la foule comme en forêt. Femme de rêve, femme d'espoir heureux. Comment puis-je faire pour être plus près de vous en restant libre?
J'avais omis de parler du spectacle de Jean-François Plantane. Donc, le Gentleman perdu est présenté dans le cadre du Festival Saint-Ambroise Fringe de Montréal du 13 au 21 juin au Montreal Improv Theatre. Alors, je passe le micro à Danielle.
Alors, un sujet passablement terre-à-terre par rapport au sujet que nous avons eu jusqu'à présent. Alors, c'est sur le cancer, avec simplicité, fantaisie, vous allez voir, paru dans la presse du mercredi 28 avril. Et c'est un texte de Catherine Hanfield. Vous allez voir, c'est Charlot qui a les cheveux roux, une dent de lait en moins et un petit lapin bleu qui le suit presque partout. Du haut de ses 6 ans, il s'en va à la guerre contre le cancer. Vous savez, parler aux enfants de la maladie, des hôpitaux et même de la mort n'est pas toujours évident. L'auteur Yannick Lachapelle le fait avec simplicité et fantaisie dans son 3e et plus récent livre « 1-0 pour Charlot », illustré par Pézière. Dans cette histoire, toute ressemblance avec des personnes ayant existé n'est pas fortuite, nous a écrit l'auteur lorsque nous lui avons demandé, avant de la rencontrer, si elle avait elle-même vécu une expérience avec le cancer. Jeune adulte, Yannick Lachapelle a accompagné son copain dans sa lutte contre un cancer qui s'est attaqué à son tibia, le même dont a souffert Terry Fox, vous vous souvenez? Si son copain a été emporté par la maladie, Charlot, qui souffre lui aussi d'un cancer au tibia, remporte son combat. L'histoire de Charlot, couvait en elle depuis longtemps, souligne la mère de 2 adolescents. 25 ans plus tard, après avoir écrit 2 premiers livres pour enfants, elle a trouvé les mots pour l'écrire ce livre, justement ce beau petit livre, 1-0 pour Charlot. Un vocabulaire de combattant, imaginez avec un château, une navette spatiale, une armure, des petits monstres et une jambe de robot. Les enfants ont une capacité de comprendre au-delà de l'image, sans aller chercher des termes ultra-médicaux, ce que dit l'auteur. Si 1-0 pour Charlot peut servir d'outil pour les enfants atteints du cancer, Yannick Lachapelle s'en réjouit. Cela dit, son livre se veut d'abord un prétexte pour passer du temps avec son enfant et pour aborder avec lui la maladie de façon ludique. Elle rappelle aussi que tous les enfants ont un jour ou l'autre affaire à l'hôpital, que ce soit pour se faire poser des tubes dans les oreilles, pour se faire installer un plâtre ou pour rencontrer tel ou tel spécialiste. Et les enfants en voient. Imaginez autour d'eux des enfants, des gens qui sont malades, des enfants aussi qui sont malades, des gens qui ont perdu leurs cheveux à cause de leur traitement, rappelle l'auteur, qui a lancé son livre en toute discrétion récemment au Centre de cancérologie de l'hôpital Sainte-Justine aux côtés d'une 12aine de petits patients. Alors, 1-0 pour Charlot est en librairie et vous pouvez aussi télécharger des activités pour accompagner sa lecture sur le site de Fonfon. On parle de l'été, ben là, je vais vous parler de lignes esthétiques. On va montrer nos lignes esthétiques cet été. Alors, c'est un texte de Marie-Claude Lortie dans la presse du 29 avril. Alors, aimez-vous vos lignes? Vous savez sûrement pas de quoi je parle. Quand j'ai vu cette question posée en anglais pour la première fois sur les réseaux sociaux, j'ai cru qu'on me demandait si j'aimais mes rides. Aha! Question à laquelle j'étais prête à répondre, en toute honnêteté, plus un bof, assumé d'un oui délirant. Et puis, en me penchant sur le sujet, ce qu'elle dit, je me suis rendu compte que tout l'exercice d'appréciation personnelle concernant les lignes parlait en fait de stretch lines, un sujet un peu plus pointu, encore plus délicat, surtout beaucoup plus tabou. Les stretch lines... Ah, vous devinez, c'est ce qu'on appelle en français, vous vous demandez, ce qu'on appelle en français des vergetures, ces lignes blanchâtres ou violacées que laissent sous notre corps les fluctuations de volume, qu'elles soient causées par les grossesses, les traitements nécessaires pour certaines maladies, et on pense aux effets de la cortisone aussi, par exemple, ou les prises et les pertes de poids. Même ceux qui font beaucoup de musculation puis perdent du volume en muscles peuvent en avoir. Elles sont généralement placées précisément là où nos sentiments pour notre corps sont les plus fragiles. Les cuisses, le ventre, les fesses, mais elles peuvent être n'importe où. Une femme n'a pas de telles lignes parce qu'elle ne prend pas soin d'elle, mais parce que la vie, parfois, cause ça. Point à la ligne. Je parle de femmes, mais les hommes aussi ont de telles vergetures parce qu'eux aussi ont des changements de poids et compagnie. Sauf que même si les hommes sont de plus en plus touchés par les mêmes obsessions que les femmes, en tout ce qui touche l'apparence physique, si on se faisait un sondage ici, maintenant, en ce moment, Anne-Marie et Louise, pour savoir si qui est le plus complexé par ces lignes, je suis convaincue que les femmes seraient grandement majoritaires.
En effet. J'ai les genres noirs, donc j'en ai pas.
Leur particularité corporelle les obsède vraiment. Hein? Ces vergetures, elles les détestent, les cachent, essaient de les oublier, les taisent, rêvent de les faire disparaître. Parlez-en aux inventeurs du tankini. Le bikini qui cache le ventre. C'est pour essayer de passer par-dessus cette gêne au sujet des vergetures, assumons ce mot, que deux mamans américaines ont lancé justement sur Instagram un site. Il s'appelle Love Your Lines et on y trouve de tout. On y trouve des photos magnifiques, des photos ordinaires, peu de visages, surtout la réalité étalée en noir et blanc, des photos de vergetures de toutes les sortes, sur toutes les parties du corps, un plongeon dans le vrai. Certes, certaines des photos sont plus provocantes, plus d'approche, crevons cet abcès émotionnel, choquons, forçons-nous à regarder ce qu'on ne veut pas voir. Mais beaucoup d'autres photos sont gentilles, aimantes, zen, carrément esthétiquement agréables, charmantes et cherchent très positivement à montrer que ces lignes peuvent décorer le corps de la même façon que les tatouages. Dans un monde où on n'hésite plus à transformer nos corps de telle façon, pourquoi rejetterait-on le travail de la nature? Et là, on fait un petit comparable aux tigresses. Les tigresses ont des rayures. Parfois, nous aussi. Anne-Marie nous parlait de 10 choses dont on n'a jamais assez en vacances, texte qui est paru dans Coup de pouce. Alors, une des choses, justement, pour contrer le cholestérol, je vous convie tout le monde, ici, même ceux à la maison, à faire de l'activité physique. C'est excellent contre le cholestérol. Alors, il y a de nombreuses études qui ont prouvé que même un petit peu d'exercice, juste un petit peu physique, un petit peu d'exercice physique pratiqué de manière régulière contribue justement à éliminer le mauvais cholestérol de l'organisme. On parle ici d'une demi-heure de marche sans interruption par jour serait un excellent début. Vous pourriez commencer tout de suite après l'émission. Vous pouvez aussi éviter les œufs, la source la plus importante de cholestérol. Les œufs, particulièrement au déjeuner. Il est possible de réduire notre consommation d'œufs en deux en remplaçant ces derniers par divers aliments, par exemple une cuillère de graines de lin et de l'eau ou encore tout simplement par de la compote de pommes. Misez aussi, on le dit assez jamais, sur les végétaux. Le principe est simple, les végétaux ne produisent pas de cholestérol. Donc, on peut garnir son assiette de verdure sans crainte, c'est ce que le nutritionniste nous dit. La viande dans une assiette doit être une décoration et non l'élément principal. Fuir aussi les gras saturés, on répète, mais c'est vrai, ce n'est plus un secret. Les scientifiques s'entendent pour dire que les gras saturés sont dangereux pour la santé. Ces gras existent dans une multitude d'aliments couramment consommés, les produits laitiers, particulièrement les fromages, les huiles tropicales ainsi que les viandes. Et finalement, vous pouvez incorporer les fibres solubles, les fibres qu'on trouve par exemple dans les lentilles, le son d'avoine ou les poires, capturent le cholestérol et permettent d'en éliminer une bonne partie dans les selles. Alors, ces fibres sont tout à fait extraordinaires, à peine 3 grammes consommés par jour et les taux de cholestérol vont réduire d'environ 10 %.
Alors, en bref, encore une fois, Xavier Dolan n'est pas simplement un cinéaste, c'est le nouvel ambassadeur de Vuitton. Lors du Festival de Cannes, on a pu voir le jeune réalisateur Xavier Dolan, membre du jury, porter sur le tapis rouge de magnifiques costumes Louis Vuitton. Il entre désormais dans le cercle de prestige de la grande enseigne française de luxe en devenant officiellement son nouvel ambassadeur. Madonna, Jennifer Lopez, Kate Moss, Charlotte Gainsbourg, Angelina Jolie, Catherine Deneuve, Michelle Williams, David Bowie et Keith Richards ont également tous pris la pause pour des campagnes du célèbre maroquinier français. Et en bref encore, mythe, en vieillissant, on perd la mémoire. Réalité, le vieillissement s'accompagne parfois de modifications mineures des différentes fonctions cognitives, indique le docteur Fadi Massoud, gériatre au CHUM et à l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal. Par exemple, les personnes âgées peuvent avoir plus de difficultés à se concentrer sur une tâche lorsqu'il y a plusieurs sources de stimulation spontanée. Elles peuvent avoir aussi périodiquement des oublis bénins, par exemple, oublier le nom d'un acteur connu.
Alors, c'est ainsi que s'achève cette émission de Kiosque Magazine du 17 juin, en remerciant mes collègues sans qui cette émission n'aurait pu être possible. Mathieu Tessier à la technique. Daniel, merci beaucoup de ta présence. C'était très agréable. Merci. Louise, merci.
Merci beaucoup.
Merci. Alors, je vous rappelle que nous sommes en rediffusion à 13h et 21h. Également, vous pouvez nous retrouver sur visezvoix.org. Et si vous voulez faire des commentaires, canal M à commercial.